Chapitre 42. Le sol de la factory. Chéri criait toujours. « Faites la terre !» dit Molly d'où elle se trouve près de la porte avec son petit pistolet. Et Mona pense qu'elle peut le faire, qu'elle peut transmettre à Chéri un peu de son calme, où tout est intéressant et rien n'est exagéré, mais en traversant la pièce, elle voit le sac congélation froissé sur le sol et se rappelle qu'il y a un patch à l'intérieur. Peut-être de quoi aider Chéri à se détendre. « Tiens !» dit-elle lorsqu'elle la rejoint, qu'elle retire le film plastique et colle le patch sur le cou de Chéri. Le cri de la MedTech descend la gamme jusqu'à un gargouillis tandis qu'elle glisse le long de la cloison de vieux livres. Mais Mona est persuadée qu'elle ira bien, et de toute façon, il y a eu des tirs en bas, des flingues. Par-delà Molly, une traînée de balles traçantes blanches vient résonner bruyamment autour des poutrelles d'acier. Et Molly hurle à Gentry d'allumer les lumières. Elle devait parler des lumières en bas. Parce qu'ici, elles étaient très brillantes, si brillantes qu'elle peut voir des petits points flous, des taches de couleur, qui s'échappent des choses si elle les regarde attentivement. Des balles traçantes. C'est comme ça qu'on appelle ces munitions, celles qui éclairent. Eddie lui en a parlé en Floride, lorsqu'ils observaient la plage où des agents de sécurité privée en tiraient dans le noir. « Ouais, les lumières !» dit le visage sur le petit écran. « La sorcière n'y voit rien !» Mona lui sourit. Elle ne pensait pas que quelqu'un d'autre l'avait entendue. « La sorcière ?» Gentry et le grand slick arrachaient de grands câbles jaunes du mur, où ils étaient attachés avec du ruban adhésif argenté, et les branchaient dans ses boîtes métalliques. Et Chéri de Cleveland était assise par terre, les yeux fermés, et Molly était accroupie près de la porte et tenait son flingue à deux mains, et Angie était « Ne bouge pas ». Elle entendit quelqu'un dire ça. Mais ce n'était pas quelqu'un dans la pièce. Elle pensa que c'était peut-être Lanette, comme si Lanette pouvait dire ça à travers le temps et le calme. Parce qu'Angie était là, sur le sol, près du lit du cadavre, assise en tailleur comme une statue, ses bras autour de lui. La lumière diminua lorsque Gentry et Slick trouvèrent leur connexion, et elle crut entendre le visage sur l'écran haleté. Mais elle était déjà partie vers Angie et avait vu, soudain parfaitement et avec une clarté douloureuse, le petit filet de sang qui coulait de son oreille gauche. Mais le calme tenait tout de même. Alors qu'elle sentait déjà des points chauds et irrités au fond de sa gorge et qu'elle se rappelait Lanette qui lui expliquait « Ne sniffe jamais ça. Ça fait des trous en toi. » Et Molly avait le dos droit, les bras tendus. Tendus vers le bas, pas vers cette boîte grise, mais jusqu'à son pistolet, ce petit truc. Et Mona l'entendit faire « snick, snick, snick ». Puis, trois explosions loin en dessous. Et il dut y avoir des éclairs bleus, mais les mains de Mona étaient désormais autour d'Angie, les poignets contre la fourrure maculée de sang. Pour regarder dans ses yeux vides, la lumière qui s'évanouissait déjà. Très, très loin. « Hé !» dit Mona avec personne pour l'entendre, rien qu'Angie basculant sur le cadavre dans le sac de couchage. « Hé !» Elle leva les yeux juste à temps pour distinguer une dernière image sur cet écran vide. Et la voir disparaître. Après ça, pendant longtemps, plus rien ne compta. Ce n'était pas comme dans le calme, lorsqu'on se fout de tout, la surmultipliée du cristal, et pas non plus comme une descente, mais simplement cette sensation d'après, comme se sent peut-être un fantôme. Elle se tenait près de Slick et Molly, devant la porte, et regardait vers le bas. Dans la faible lueur des vieilles et grosses ampoules, elle vit une araignée métallique faire une petite danse sur le sol de béton sale. Elle avait d'immenses lames incurvées qui sifflaient et tourbillonnaient lorsqu'elle bougeait. Mais il n'y avait personne là-bas qui se déplaçait. Et la machine continuait comme un jouet cassé, d'avant en arrière, devant les décombres tordus du petit pont qu'elle avait traversé avec Angie et Chéri. Chéri s'était relevé du sol, pâle et le visage marqué, et elle avait retiré le patch de son cou.
« Ah, c'est un super relaxant musculaire !»
parvint-elle à dire. Et Mona se sentit mal parce qu'elle avait compris qu'elle avait fait une bêtise alors qu'elle croyait aider. Mais c'était toujours comme ça avec la Louise. Et pourquoi n'arrivait-elle pas à arrêter? Parce que t'es une camée, idiote, entendit-elle Lanette lui dire, mais elle n'avait pas voulu s'en rappeler. Alors ils restèrent là, à regarder l'araignée de métal qui s'agitait et vidait ses batteries. Tous, sauf Gentry, qui dévissait la boîte grise de son montant au-dessus du lit, ses bottes noires près de la fourrure rouge d'Engie. Écoute, dit Molly, c'est un hélico, un gros. Elle fut la dernière à descendre à la corde, à l'exception de Gentry qui venait de dire qu'il ne les suivrait pas, qu'il s'en foutait, qu'il restait là. La corde était épaisse et d'un gris sale, avec des nœuds auxquels on pouvait s'accrocher, comme une balançoire dans un souvenir lointain. Slick et Molly avaient d'abord fait descendre la boîte grise jusqu'à une plateforme où les escaliers métalliques n'étaient pas détruits. Puis, Molly avait suivi comme un écureuil en donnant l'impression d'à peine se tenir, et elle l'avait attaché à une rampe. Slick était descendu lentement parce qu'il portait sur l'épaule Sherry, trop flagada pour y parvenir seule. Mona se sentait encore mal pour ce qu'elle lui avait fait. Et elle se demanda si c'était pour ça qu'ils avaient choisi de l'abandonner là. Mais c'était Molly qui avait décidé, debout, près de cette fenêtre, en observant des gens sortir du long hélicoptère noir et se disperser dans la neige. « Regarde ça !» avait-elle dit. « Ils savent. Ils viennent simplement ramasser les morceaux. » Sense net. « Moi, je dégage. » Sherry avait marmonné qu'il partait aussi, Slick et elle. Et Slick avait haussé les épaules puis souri et passé un bras autour d'elle. « Et moi ?» Molly l'avait regardé, ou avait semblé le faire. C'était difficile à dire avec les verres. Des dents blanches étaient apparues au-dessus de ses lèvres inférieures pendant une seconde, puis elle avait dit « Vaut mieux que tu restes. Laisse-les régler ça. Tu n'as rien fait. Rien de tout ça n'était ton idée. Ils vont sans doute se faire pardonner ou essayer en tout cas. Ouais, tu restes. » Mona ne comprenait pas. Mais elle se sentait si morte, si crevée par la descente de Cam, qu'elle ne lutta pas. Puis, ils s'en allèrent, s'accrochèrent à la corde et disparurent. Et c'était toujours comme ça. Les gens partaient et on ne les voyait plus jamais. Elle regarda dans la pièce et découvrit Gentry qui faisait les 100 pas devant ses livres, en les effleurant du doigt comme s'il en cherchait un spécial. Il avait étendu un drap sur le lit. Alors, elle s'était tirée, et elle ne saurait jamais si Gentry trouverait un jour son ouvrage ou non. Mais c'était comme ça. Et elle descendait donc la corde, ce qui n'était pas aussi facile que cela lui avait semblé avec Molly et Slick, surtout dans son état. Parce qu'elle était à deux doigts de s'évanouir, et ses bras et ses jambes ne paraissaient pas fonctionner très bien, qu'elle devait se concentrer pour qu'il bouge. Et son nez et sa gorge gonflaient de l'intérieur, et elle ne remarqua pas l'homme noir avant d'être arrivé en bas. Il était debout près de l'araignée mécanique, désormais immobile. Il leva les yeux lorsque le talon d'une chaussure de Mona racla contre la plateforme d'acier. Et son visage devint très triste quand il la vit. Mais cela ne dura pas et il grimpa l'escalier métallique d'une démarche lente et assurée. Et pendant qu'il s'approchait, elle commença à se demander s'il était vraiment noir. Pas la couleur de peau. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais il y avait quelque chose dans la forme de son crâne chauve, les angles de son visage qui ne ressemblaient à personne. Il était grand, très grand, et portait un long manteau noir au cuir si fin qu'il voletait comme de la soie. « Salut, chérie, » dit-il lorsqu'il se retrouva face à elle, qu'il tendit un bras pour lui relever le menton, et qu'elle put regarder ses yeux d'agate parsemés d'or, des yeux que personne d'autre au monde n'avait. De longs doigts si légers contre sa peau. « Quel âge as-tu, chérie ?»«
16 ans. »«
Tu as besoin d'une coupe de cheveux, » affirma-t-il avec un certain sérieux.
« Engie est là-haut, »
dit-elle en montrant l'étage, lorsqu'elle retrouva sa voix.
« Elle est...
Chut !» Elle entendit des bruits métalliques à l'autre bout de l'immense bâtiment, puis un moteur qui démarrait, l'aéro, se dit-elle, celui qui avait emmené Molly ici. Le noir haussa les sourcils, sauf qu'il n'avait pas de sourcils. « Tout va bien ? » Il baissa le bras. Elle acquiesça. D'accord, dit-il avant de lui prendre la main pour l'aider à descendre l'escalier. En bas, sans la lâcher, il la fit contourner ce qui restait de la passerelle. Il y avait un cadavre là. Une tenue de camouflage et un de ces gros trucs pour parler fort, comme ont les flics.
« Swift !»
cria l'homme dans l'immense espace vide, entre les grilles noires de fenêtres sans verre, très sombres devant le ciel blanc d'un matin d'hiver.
« Ramène ton cul ! Je l'ai trouvé !»«
Mais je ne suis pas elle !»
Et par-delà les grandes portes ouvertes, devant le ciel, la neige et la rouille, elle vit cet employé en costume entrer, le manteau déboutonné et la cravate battant au vent, et l'aéro de Molly passa près de lui, sortant par les mêmes portes. Et il ne regarda même pas, parce qu'il regardait Mona.
« Je ne suis pas Angie !»
dit-elle, et elle se demanda si elle devait lui raconter ce qu'elle avait vu, Angie et le jeune type ensemble, sur ce petit écran juste avant qu'il s'éteigne.
« Je sais, » dit le noir. « Pas encore. »
Le ravissement. Le ravissement approche.